I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois, en partenariat avec le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. C'est Thibaut Gomez-Léal qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour discuter d'une année de cinéma avec un invité. Avant de débuter, merci encore aux auditeurs qui soutiennent, même modestement, Année Lumière via le site ou l'application Utip. Ça m'aide à produire la meilleure des émissions possibles, alors merci à eux. Ce mois-ci, mon invité est chargé d'édition chez Gaumont. Il écrit régulièrement pour la revue Schnock et est également réalisateur de documentaires. Cette personne décidément talentueuse, c'est Sylvain Perret. Salut Sylvain.
Bonjour.
Bonjour, comment ça va?
Ben ça va, très bien. Et toi?
Eh ben très très bien, je suis très heureux de t'avoir dans l'émission.
Ben
et tu es l'invité de la dernière de la saison.
J'essaie de bien finir. Là.
Ben écoute, je n'ai aucun doute là-dessus. Alors, je t'ai décrit comme chargé d'édition chez Gaumont,
oui.
Maison hautement célèbre. C'est quoi un chargé d'édition pour nos auditeurs?
Un chargé d'édition vidéo, c'est une personne qui s'occupe du début à la fin. De la création d'édition vidéo physique.
Donc DVD, Blu-ray.
DVD, Blu-ray. Okay. Et maintenant, il y a aussi une partie qui concerne une plateforme qui a été lancée par Gaumont il y a quelques semaines, qui s'appelle Gaumont Classique, qui est une plateforme de SVOD. C'est un peu le Netflix du film en noir et blanc. Du film de patrimoine.
Du coup, tu fais les bonus, tu réalises les documentaires, tu fais le contenu qui est additionnel au-delà du film dans les DVD Blu-ray sur les plateformes de streaming.
Que l'édition se fasse, que ce soit avec les graphistes qui vont nous faire une jaquette, que ce soit avec la partie technique qui vont nous passer les éléments.
Génial.
Et puis aller voir comment faire pour avoir la meilleure approche, ou en tout cas une approche cohérente sur un film, sachant que parfois, forcément, quand on fait un film, par exemple, de 1934, il n'y a plus grand monde qui est là pour en parler, donc il faut trouver les bonnes personnes pour en parler.
Et tu l'as dit, Sylvain, ce mois-ci, on s'en va au cœur des années 1930 pour décrypter et discuter d'un millésime de cinéma mouvementé, sombre mais passionnant. Une année terrible à bien des égards, où la création, les films et ceux qui les font se trouvent attaqués, contraints et censurés. Mais comme dans chaque période où le cinéma devient une arme pour mieux enfermer, il est aussi, paradoxalement, on va le voir, une porte, une passerelle vers plus de poésie, de beauté et de liberté. Bref, aujourd'hui, tu l'as dit Sylvain, on parle de l'année 1934. Smoke Gets in Your Eyes par Paul Whiteman et son orchestre. On écoutait ça en 1934. Alors Sylvain, pourquoi avoir choisi cette année-là, 1934, cette période?
Eh bien, tu m'avais laissé le choix entre une période assez large, en gros de 1930 à 1900, aux années 50.
Oui, c'est vrai. Oui.
Donc en gros, entre le parlant et on va dire la nouvelle vague, par exemple.
Bien sûr, ouais.
Et j'ai essayé de chercher. Au début, je suis parti un peu au hasard. Puis j'ai dit, tiens, je sais que 1934, c'est une année où le code Hays est appliqué aux États-Unis. Donc je suis parti de là. Donc c'est une année de changement aux États-Unis. Et j'ai essayé de voir s'il y avait des choses à dire qui pouvaient être intéressantes ailleurs, c'est-à-dire en Europe. Et effectivement, en fait, c'est une année de transition. C'est une année de transition un peu partout dans le monde à ce moment-là. Donc c'est pas une année qui est connue comme 1936 avec le Front Populaire, ou on parlait de l'avènement du parlant, ou alors
c'est une année forcément marquée dans l'imaginaire collectif.
Mais en fait, c'est une année qui vraiment l'année de transition, quoi.
C'est l'année, pour un peu de contexte, de l'autoproclamation d'Adolf Hitler en tant que fureur du Reich allemand et de la nuit des longs couteaux, cette suite d'assassinats perpétrés par les nazis au sein de leur propre parti. L'année également de la grande marche de Mao Tse-tung et de ses 25 000 troupes qui parcourent alors 9 000 km à travers la Chine. Cette année-là, les célèbres gangsters Bonnie and Clyde sont abattus par la police. Donald Duck fait sa première apparition dans un court-métrage de Walt Disney. Flash Gordon voit le jour dans les pages de King Comics. Et Agatha Christie publie Le Crime de l'Orient Express, une aventure de Hercule Poirot adaptée plusieurs fois au cinéma et récemment par Kenneth Branagh. Mais 1934, c'est aussi et surtout du cinéma, et on est là pour ça. Et cette année-là, le public va en salle voir l'impressionnant Cléopâtre de Cécile B. 2000, le merveilleux L'île au trésor de Victor Fleming ou l'irrésistible New York-Miami de Frank Capra. Les spectateurs découvrent aussi L'homme qui en savait trop d'Alfred Hitchcock, Angèle de Marcel Pagnol, L'impératrice rouge avec Marlène Dietrich, et ils avaient même le droit à deux Greta Garbo pour le prix d'une avec les films Le voile des illusions et La reine Christine de Ruben Mamoulian. Mais en 1934, aux États-Unis, c'est la fin d'une ère. En gestation depuis plusieurs années, un coup légal vient de s'abattre sur le territoire, contraignant la création et le cinéma, le transformant en arme consciente d'une propagande puritaine. Le nom de ce code de censure qui modèlera le cinéma américain pendant plus de 30 ans et qui est au cœur de notre premier thème, le code Hays.
The future of the motion picture is as far flung as all the tomorrow. Rendering greater and still greater service as the chief amusement of the majority of all of our people and the sole amusement of millions and millions. Exercising an immeasurable influence as a living, breathing thing on the ideas and the ideals, the customs and the costumes, the hope. And the ambitions of countless men, women and children.
Et on se réveille. Oui, cette voix un peu ronflante, un peu endormissante, c'est celle de Will Hays qui présente le Vitaphone en 1926 et qui fait donc ce discours où il dit, je traduis, le cinéma doit rendre un service de plus en plus grand en tant que principal amusement de la majorité de tout notre peuple et le seul amusement de millions de personnes, exerçant une influence incommensurable en tant que chose vivante sur les idéaux, les coutumes, les espoirs et les ambitions d'hommes, femmes et enfants. Alors pourquoi on parle et pourquoi on ouvre sur cet extrait de Will Hays ? Simplement parce que cet homme-là, qui va être au cœur de notre premier thème, c'est le président à l'époque, en 1934, de la Motion Picture Association, qui est une association des professionnels du cinéma américain. Et il est le créateur de ce qu'on appelle le Motion Picture Production Code, qui est un code d'autocensure qui va être mis en place par l'industrie à partir de 1924 et qu'on appellera ce code le code Hays, du nom donc de son créateur. Alors on voit qu'il est créé en 1924. Et pourquoi on en parle en 1934? Tout simplement parce qu'en 1934, le 13 juin 1934, il y a un amendement à ce code, l'amendement au Production Code, qui impose aux films américains plus de restrictions morales, c'est-à-dire pas de nudité, pas d'homosexualité, pas de drogue, pas de boisson, pas de jeu, pas de baisers excessifs, de héros immoraux ou d'empathie pour des criminels. Bref, un code assez lourd qui est imposé. Donc tous les films sortis après le 1er juillet 1934 sont obligés d'adopter ces codes-là et sous risque d'amende allant jusqu'à $25,000 et de refus de visa. Donc ils sont tout simplement pas distribués dans le pays. Donc effectivement, c'est mine de rien un code qui va venir, je l'ai dit en introduction, modeler toute une ère, toute une période du cinéma américain. Alors Sylvain, avant de parler 34 véritablement et de plonger dans cette année-là qui va être, on l'a vu, charnière, d'où est né ce Motion Picture Production Code? D'où est né ce code Hays? Pourquoi autant de restrictions subitement? Alors, pourquoi cette chape de plomb?
Il y a plein de choses qui font que ce code naît et qui va être appliqué en 34 comme tu le dis, mais pas avant. C'est une sorte de bataille qui va être menée entre Hollywood, qui va être représenté comme une sorte de Babylone aux yeux du grand public et surtout des gardiens de la sacro-sainte morale. C'est souvent des catholiques. Oui, c'est des catholiques qui voyaient ça d'un très très mauvais œil et qui vont voir pendant des années ces gars de l'Ouest à Hollywood faire un peu tout et n'importe quoi et ils vont commencer un peu à grincer des dents. Et ça va se passer sur les écrans, donc certains films qui vont être transgressifs jusqu'à ce que, enfin, qui vont être aujourd'hui considérés comme transgressifs quand on va les voir aujourd'hui encore, qui vont parler de drogue, d'homosexualité, de femmes qui réussissent, de tromperie, mais c'est pas très grave, d'une femme qui va coucher pour réussir et passer les échelons, totale liberté.
Un certain progressisme sur plein d'aspects.
Oui.
Et de l'autre côté, effectivement, c'est une libération des mœurs. Oui, avec, oui. Le cinéma ne s'interdisait pas grand-chose.
C'est vraiment très étonnant et je conseille tout le monde d'essayer d'aller voir des films qui sont faits pendant cette période, c'est-à-dire le début du parlant 1927-1929 jusqu'à 1934 à Hollywood.
Qu'on appelle une période du cinéma précoce. pré-code,
oui,
d'ailleurs.
Le pré-code. Hein, ça s'est appelé le pré-code, mais très tardivement, je crois que c'est dans les années 70 ou 80 qu'il a commencé à avoir un intérêt pour ce corpus-là. C'est un cinéma qui était extrêmement transgressif. Aujourd'hui encore, on est assez choqués. Surtout qu'on a l'image, on a un peu l'esthétique en tête du cinéma des années 30 ou 40. Même si on n'est pas spécialiste, on pense que c'est un cinéma gentillet,
Et les gens qui se font des bisous dans le cou,
oui,
et
voilà,
qui rigolent.
Et en fait, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va arriver comme anachronique pour nous. On ne peut pas dire ça, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Ah, ils tuent le bébé. Ah, ils font des... Non, c'est. Alors la drogue, on est sous la prohibition encore une fois, donc ils boivent de l'alcool, il y a pas de problème, trafic de drogue.
Et c'est Al Capone et tout ça. Hein, là,
ben oui.
On est dans cette année-là.
Mais alors justement, quand il y a tous ces films de gangsters qui arrivent, ça dérange énormément parce qu'on glorifie le gangster. Le premier Scarface de Howard Hawks, qui sera suivi par quasiment un sous-genre, le film de gangster, L'ennemi public de Wellman et tant d'autres. On est du côté du gangster. Même si le gangster meurt, on est de son côté finalement.
Et j'ai entendu effectivement que là, tu l'as dit, le cinéma dérange une certaine partie de la population puritaine, religieuse, qui veut remettre un peu d'ordre dans la morale de l'État. Et en fait, ce qu'il faut préciser, c'est qu'à l'époque, on se retrouve avec plein de films qui sont effectivement assez, qui osent des choses et qui se retrouvent interdits. Dans des villes, dans des états, donc il y a des dizaines, des centaines de décrets qui sont mis tous les ans, et du coup chaque état est censé réguler ville par ville après, parce qu'il y a des associations qui se plaignent, etc. Donc c'est un peu le bazar véritablement dans chaque état, dans l'état. Donc mine de rien, depuis 10 ans, il y a déjà un mouvement social, on va dire, de certaines associations pour dire faut réguler ce cinéma qui montre trop de choses à notre public, etc.
Ouais, tout à fait. Mais il y a pas seulement les films qui dérangent, mais c'est Hollywood en soi.
Oui.
Pour deux raisons. La première, c'est que Hollywood a aussi cette image sulfureuse en coulisses. Ouais. Faut se rappeler qu'il y a eu énormément de faits divers et de scandales à Hollywood à cette époque-là. Notamment, le plus célèbre étant l'affaire Fatih Arbuckle.
C'est qui Fatih Arbuckle?
Fatih Arbuckle, c'est une sorte de... On connaît souvent Chaplin, on connaît aussi Buster Keaton. Ouais. Il y en avait un troisième qui avait autant de célébrités. Qui était Roscoe Arbuckle, Fatih Arbuckle, donc Fatih parce que c'était un personnage un peu rondouillard, qui était un peu l'acteur préféré aux États des Américains,
superstar,
des Nord-Américains, et il va se retrouver dans une soirée de débauche où une femme va trouver la mort. Il va se retrouver accusé de l'avoir violé, de l'avoir tué, et donc c'est pas tant l'histoire, enfin c'est pas seulement l'histoire qui va déranger, mais c'est tout ce qu'il y a autour, tout l'aura de soirées de débauche, d'alcool. Et donc tout ça va avoir un effet détestable. Et c'est un des premiers signes, en fait. On est encore au temps du muet. On est dans les années 20. Mais le premier signe, c'est que Hollywood va dire, on arrête.
Ouais, on va se calmer, effectivement.
Fatih Arbuckle ne tourne plus.
Oui, il a été effectivement blacklisté de tout.
Et même les films qui passaient avant ne passent plus. Donc on arrête. C'est un premier signe. C'est le premier moment où il y a une fissure, où Hollywood est obligé d'accepter de faire des contraintes.
Et d'ailleurs, c'est là effectivement que Will Hayes arrive avec son premier code en 1924, et qu'il y a un code qui s'appelle d'ailleurs la formule, avec déjà une liste de restrictions, en tout cas de lignes de conduite. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais à l'époque, en 24, quand il arrive, c'est pas obligatoire.
Non.
C'est juste. C'est un guideline, c'est un mode d'emploi. Attention, si vous voulez effectivement suivre ça, mais en fait les studios, ils se rendent compte que c'est plus intéressant de faire des choses un peu audacieux, etc. Parce que le public va plus évidemment voir des films où il y a du sexe, des gangsters, que films gentils, quoi.
Faut savoir aussi qu'à cette époque, il y a les films d'horreur qui arrivent.
Bah oui.
Dracula, Frankenstein, La Momie, L'Homme Invisible, ça arrive pas par hasard non plus, parce qu'on a envie de se faire peur.
Ouais.
Et puis on est en pleine crise, quoi. On est en pleine crise, donc les gens, la crise commence en 1929 aux États-Unis, elle arrivera en 1932 en Europe, et donc il faut un petit peu aussi avoir une vision un peu. Enfin, le cinéma est un exutoire, et donc il y a les compteurs qui vont être mis, les potards qui vont être mis à fond.
Selon toi, il y avait quand même vraiment le besoin de réguler ce Hollywood.
Le besoin, enfin.
En tout cas, il y avait vraiment un besoin de dire ok, on va peut-être mettre un cadre à ça.
C'est compliqué de non, mais on n'était pas à l'époque, mais c'est pas des films qui dérangeaient outre mesure, à part encore une fois une certaine morale.
Ça dérangeait une frange de la population qui était en minorité véritablement.
Ah, je pense. Et puis c'était un divertissement populaire, donc je pense que les gens s'en fichaient. Et surtout, je pense que c'était un argument, c'est-à-dire que Freaks de Todd Browning, qui est un film qui était construit sur un système très simple, c'est un producteur qui demande à un scénariste, fais-moi l'histoire la plus horrible du monde. C'est inimaginable aujourd'hui, surtout c'est un film de studio, c'est la MGM. Fais-moi un film qui soit le plus horrible possible. Et donc, le film va être fait comme ça. Bon, là, ça va être très long, parce qu'à l'époque, ça va déranger. Mais...
Et Freaks, c'est donc, pour ceux qui nous écoutent, c'est
la
l'histoire...
La monstrueuse parade.
Ouais, exactement, ça raconte...
De Todd Browning, c'est la vie dans un cirque, voilà. La vie où on est au milieu de bêtes de foire. Et là où le film est exceptionnel, c'est que c'est fait par quelqu'un qui s'appelle Todd Browning. Et Todd Browning va rapidement nous faire comprendre qu'il est du côté des monstres et pas du côté des gens dits normaux.
Ouais. Et, c'est là
le... et ce qui fait que le film est assez intéressant, quoi. Il fascine autant qu'il révulse, autant qu'il. Mais on est révulsé par les gens qui vont se moquer de ces monstres. Et ce film-là est inimaginable 4 ans après.
Ouais.
Mais King Kong, c'est pareil. On fait du film. Enfin, on fait des films pour que les gens prennent un électrochoc.
Et mine de rien, c'est ce qui reste.
Oui, oui.
Dans l'esprit général.
Oui, bien
et il y a
sûr.
Plein de films, j'imagine, un petit peu plus sages qui ne
bien
sont
sûr.
Pas restés.
Et puis à côté de ça, la libération des mœurs des femmes, tout ça. Il y a quelque chose qui est un peu intolérable pour les gardiens de la morale. Il y a un livre qui est très intéressant, qui moi je considère comme un très 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 mauvais livre, qui est souvent tout le monde le conseille. Je pense qu'il faut y jeter un coup d'œil. C'est Hollywood Babylon de oui. Kenneth Anger, qui est un livre qui compile tous les faits divers. Je pense que la moitié est bidonnée facilement. C'est pas sourcé, c'est pas très sérieux. Oui. Mais l'intérêt de ce livre, c'est qu'il donne une vision de ce qui était l'image d'Hollywood à l'époque. C'est cette image extrêmement sulfureuse.
Et du coup, effectivement, en 1934, voilà, ce code Eyes qui était juste une suggestion véritablement, oui. va devenir obligatoire avec cet amendement, et notamment à cause de la création de ce qu'on appellera la PCA, la Production Code Administration, dirigée par Joseph Breen, un homme qui s'appelle Joseph Breen. Voilà, une administration dont le rôle va être d'appliquer stricto sensu ce code et ses guidelines en disant, on va regarder tous les films, et s'il y a un baiser qui est trop long, ce fameux baiser qui dure plus de 3 secondes, hop, on coupe, ou alors il n'a pas son visa, il n'est pas distribué, et du coup, ça va façonner 30 ans de cinéma américain.
Jusqu'en 66,
effectivement, et ce qui va ouvrir la porte à ce qu'on appellera le nouvel Hollywood,
bien
et
sûr.
Toute une vague de films passionnants.
Cette période va s'ouvrir avec Bonnie and Clyde, justement.
Exactement, ce qui est drôle.
D'Arthur Penn, qui est l'année... mais c'est un peu... C'est Jean-Baptiste Torré qui remarquait qu'il y avait beaucoup de films du nouvel Hollywood qui parlait de cette période 1920, 1930, 1940.
Comme une revanche, finalement.
Comme si, nous, on va les refaire, les films, on va les faire comme il faut. On va vous expliquer qu'en fait, c'était pas cet âge d'or d'Hollywood, parce qu'il y a aussi un âge d'or qui va s'ouvrir à ce moment-là. C'est ces moments où Hollywood, c'est la métaphore. C'est-à-dire, on dit que, on sous-entend que, mais on ne montre pas.
C'est vrai que là, on a cité effectivement Will Hayes, qui donne son nom au code Hayes. Oui. Mais là, je l'ai évoqué, la PCA, donc cette administration qui va régir le code Hayes, est dirigée par un homme dont on parle moins, qui s'appelle Joseph Breen, qui est, à mon sens, plus important que Hayes. Il a un rôle plus prédominant, parce que c'est lui qui fait le couperet, véritablement. Et c'est un homme qui est une ordure.
Oui.
Une horrible personne. Je vais pas devenir injurieux dans l'émission, mais c'est un homme qui est ouvertement antisémite et qui va empêcher de produire des films, par exemple, contre le gouvernement étranger et nazi. Et alors en 34, autant dire qu'il avait le nez fin.
Oui.
Et qui va montrer notamment sa sympathie pour le régime nazi et qui va montrer son antipathie pour notamment les juifs. Et il y a cette citation qui est phénoménale dans un magazine, c'est le Liberty Magazine en 36, qui dit: Joseph Breen a plus d'influence sur la standardisation de la pensée mondiale que Mussolini, Hitler ou Staline.
Oui.
Et je trouve cette phrase phénoménale et complètement vraie, puisque c'est lui qui va guider une sorte de propagande américaine, d'une modélisation de la pensée à ce niveau-là. Voilà, c'est assez dingue. Joseph Breen.
Oui, il y a un documentaire qui s'appelle The Schuld Note. Alors, excusez mon accent approximatif, qui pointe ce point aussi, qui fait que c'est pas seulement Hollywood, les mœurs d'Hollywood qui dérangent et les films, c'est aussi que on considère que Hollywood c'est une Babylone juive. Et donc, il y a quelque chose d'antisémite là-dedans. Dans le documentaire, c'est pointé. C'est aussi une manière de mais ça confirme cette idée, c'est-à-dire que on voulait aussi dire c'est fini, maintenant on est catholique en bon américain, et donc il faut arrêter les bêtises et vous rentrez dans le rang et vous soyez sage.
Ouais. Et justement, là, on voit effectivement que c'est un cinéma qui est censuré, qui est limité. Est-ce que du coup, cette ère qui s'ouvre, ça donne un cinéma qui est naturellement sous-estimé, moins intéressant, ou au contraire différent?
On appelle cette période l'âge d'or du cinéma hollywoodien. C'est un moment où on va avoir aussi.
Mais du coup, c'est un peu paradoxal. Tu donnes au cinéma moins de liberté,
non,
et ça devient un âge d'or.
C'est un cinéma qui naît. Comme je disais, c'est un cinéma de la métaphore. C'est plus un cinéma qui va montrer les choses, qui aura plein de sujets qu'il ne pourra plus montrer. Et après, il y a des réalisateurs qui vont jouer avec ça aussi, parce que Hitchcock est le plus célèbre. célèbre là-dedans. C'est le fameux. C'est pas une. Faut bien comprendre que c'est pas une exagération quand tu dis que les baisers étaient chronométrés.
On se souvient c'est de Les Enchaînés, voilà. Notorious se baiser.
Et voilà. Alors l'idée d'Hitchcock, c'est simple, c'est dans Les Enchaînés, c'est de faire un plan un peu long où la caméra tourne autour des deux acteurs qui s'embrassent une fois, ils parlent, ils se rembrassent, ils parlent, ils s'embrassent, ils parlent, ils s'embrassent. Et c'est juste
les baisers ne dépassent pas 3 secondes, voilà. Donc il est dans les clous.
Et c'est juste, c'est à la fois un super pied de nez, et puis c'est aussi de dire, ça marche pas votre truc, c'est, arrêtez, on trouvera des solutions. Et des gens comme Hitchcock vont jouer avec ça en permanence pour essayer de faire passer leurs idées. Et il y a Psychose aussi. Ouais, quand Psychose sort, c'est sous le pré-code. Alors le pré-code, en fait, il va commencer quand même un petit peu à lâcher du lest au bout d'un moment, parce qu'ils vont se rendre compte que le code ne peut pas tenir 30 ans. Il aura déjà tenu très longtemps, et trop longtemps. Je pense qu'il y a aussi des réalisateurs qui vont devoir changer leur style et qui ne sauront plus faire du cinéma. Je parlais de Todd Browning. Todd Browning, c'est moins intéressant après. Parce que lui, il ne sait pas faire la métaphore. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. C'est montrer les choses. Ce n'est pas... Je vais vous montrer ça, mais je vais le faire en...
Il était tout dans le frontal, et du coup, cette période s'ouvre, et du coup, son art périclite véritablement. Et il y a d'autres, comme tu l'as dit, effectivement, Hitchcock, même Capra, d'une certaine manière, ces restrictions vont... En fait, c'est comme dans toute période artistique qui connaît la même chose. En fait, dès qu'il y a des restrictions, l'art se trouve une créativité pour les contourner. Et c'est ça qui est assez beau dans l'histoire de l'art et l'histoire du cinéma en général, c'est qu'à chaque période de restriction, il y a toujours des artistes et des mouvements qui sont là pour contourner les restrictions et arriver transmettre un message. On l'a vu avec Hitchcock, donc tu vois le baiser dans Notorious, dans Les Enchaînés, la fameuse scène de la mort aux trousses à la fin,
le train qui rentre dans le tunnel,
ou Cary Grant, pardon,
mais Eva Meissen sur le il embrasse, ils sont dans un train, il l'embrasse et il la met sur le lit, et à ce moment-là, hop, il y a un raccord très très étrange,
ils s'embrassent, ils sont dans le train, ils s'embrassent,
peut-être les 3 secondes en question justement, ou 4 secondes de baiser, et hop, le train rentre avec vigueur, avec une musique entraînante, en disant là, le train rentre dans le tunnel, et tout le monde comprenait.
Le train rentre dans le tunnel, effectivement, et le film se termine là-dessus. Voilà. Tu vois les métaphores, effectivement, c'est assez drôle. Et on l'a vu que Frank Capra, on a déjà parlé de films d'années 30 avec Marc Moquin et Théo Ripton, où on avait déjà effectivement évoqué notamment les films de Frank Capra, et notamment l'extravagant
Monsieur Deeds,
qui parle directement, on va dire, de cette thématique du crack boursier, de cette population en détresse, de l'Amérique qui va mal, mais dans un film relativement sautillant et naïf, etc.
Capra va trouver son style.
Voilà, exactement.
Capra va trouver son style.
Et d'ailleurs, c'est Capra connaît ça. Il a 3 Oscars dans les années 30, lui, on va dire, cette période-là, il arrive à trouver son style et à avoir un certain succès, puisque c'est.
Bien sûr,
c'est
tout à fait.
Grand monsieur de l'âge d'or américain, véritablement. Oui.
Mais avant, il faisait des films du pré-code qui sont extrêmement intéressants, qui sont l'histoire de... Je crois que c'est un Asiatique qui est aux États-Unis. Il va y avoir une histoire d'amour avec une Américaine de souche. Donc c'est quand même très étonnant de se dire que ça, quelques années après, ça ne sera plus possible. Ça sera interdit. Mais je conseille à tout le monde d'aller juste sur Wikipédia et lire le Code Hays. Vous tapez, vous lisez le Code Hays, c'est... aberrant.
Pour peut-être conclure ce premier thème Code Hays, on a quand même brassé énormément d'idées, parce que du coup ça pose la question quand même de la responsabilité morale du cinéma envers la société. Là effectivement il y a cette chape de plomb qui pose cette question-là. Quelle est la responsabilité morale du cinéma envers la société?
Moi je trouve ça aberrant de penser à la place des personnes. Moi si vous voulez vraiment que je regarde un film, vous me dites surtout ne le regarde pas, il faut l'interdire, je t'interdis de voir ce film. Je considère que, en tout cas moi, je suis suffisamment grand pour choisir ce que je dois voir ou ne pas voir. On peut me conseiller des films, on ne doit surtout pas interdire des films. Alors après, mettre des restrictions par rapport à des âges, c'est possible, mais...
Protection de l'enfance, etc.
Jamais tué quelqu'un. Ou alors ça peut être des films aussi très grand public qui peuvent être très dangereux. On va parler du cinéma allemand. On n'a jamais interdit ce cinéma-là, il n'y a rien à interdire, on ne peut rien censurer sur ces films.
C'est souvent ces périodes de restriction, ce sont souvent des prétextes d'une certaine frange de la population qui veut, comme tu l'as dit, imposer une morale religieuse, etc. etc.
Mais au nom des autres.
Au nom des autres, mais c'est souvent effectivement des prétextes.
Au nom de nos enfants, au nom de machin. Voilà.
Est-ce que tu voulais rajouter, toi, quelque chose sur ce thème du Code Hays?
Allez voir des films du pré-code, il y a plusieurs éditions qui existent. Alors, c'est pas très évident à voir parce que. Mais en import, si vous vous débrouillez, vous pouvez trouver des coffrets qui réunissent des films.
C'est une période passionnante, le pré-code. C'est très court, ça dure 5 ans.
C'est vraiment des films qui semblent inimaginables. On a tendance à imaginer l'art comme quelque chose qui évolue avec quelques petites nuances. Là, c'est vraiment quelque chose qui était extrêmement libre. Il y a une phrase que tout le monde connaît, c'est devenu une blague. On ne sait pas de quel film ça vient, mais ça vient d'un film du pré-code. Le gangster discute avec la fille, ils sont très, très, très proches. Et la fille s'arrête et dit, mais c'est ton pistolet que je sens dans la poche ou tu es très content de me voir? Quand on regarde un film des années 30, on se dit, mais c'est pas possible, ça a été réenregistré ou c'est une sorte de détournement ou quelque chose. Non, non, c'est des films qui allaient très, très loin. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est des sagas. Il y en a eu quelques-unes. La plus connue, c'est Tarzan, qui avait eu des films à l'époque, certains avant. Et puis la série a continué après. Et au fur et à mesure, on se rend compte que, hop, à un moment, comme si on passait en hiver. C'est-à-dire que les costumes deviennent très très grands tout de suite. On n'a plus Jane qui se baigne nue dans l'eau. C'est non, très loin. Et puis elle est habillée. Et puis quelque chose de très puribond qui est tombé d'un coup. Qu'il y aura quelque chose en moins. Il y aura le piment en moins. Comme si on coupe la folie de quelque chose.
Comme si on coupe la folie de quelque chose. C'est une belle phrase, effectivement.
Et surtout, juste pour finir dessus, très intéressant de voir la place de la femme dans ces films de pré-code.
C'est cinéma progressiste. Oui, bien des aspects.
J'ai tendance à tous les mélanger, mais je me souviens d'un où une femme, dans une comédie, s'amuse à monter les échelons de la société en couchant avec des hommes, avec lui, parce qu'à ce moment-là, il va pouvoir passer sous-directrice ou femme du sous-directeur, et puis après, elle va prendre directeur, et puis patron général, et puis président de l'entreprise, mais avec quelque chose de presque bienveillant. C'est génial.
C'est une sorte de légèreté, d'insouciance. Ouais. Et c'est assez libérateur. Bah, oui. Merci beaucoup, Sylvain, pour toutes ces recommandations. En tout cas, c'est effectivement ces suggestions de films. Voilà qui conclut parfaitement ce premier thème de l'émission sur 1934. Vous êtes toujours en train d'écouter Annie Lumière. On est toujours avec Sylvain Perret. Et on s'en va sans plus tarder vers le second thème de notre émission. Cette musique triomphante, implacable d'une certaine manière, est signée Herbert Wint. C'est l'ouverture, c'est la musique d'ouverture du film documentaire Le Triomphe de la Volonté, film documentaire allemand et réalisé par Leni Riefenstahl à la gloire du nazisme, du parti nazi. Oui. Alors qui n'est pas sorti directement en 1934, mais pourquoi on en parle? Puisque
il est réalisé en 1934.
Il est tourné, Le Triomphe de la Volonté est tourné en 1934, notamment du 5 au 10 septembre 1934, puisque c'est le congrès nazi de Nuremberg qui est, on va dire, mis en exergue dans ce film. Et c'est un film, on va dire, qui va donner le pouls à l'époque de l'Allemagne, puisque en 1934, on est véritablement, on l'a vu en intro, sous le régime nazi. Le régime nazi impose sa patte et ouvre véritablement une page du cinéma allemand qu'on pourra mettre entre 1933 et 1945.
Oui, déjà, la UEFA en 1933, c'est bon, maintenant on est au pouvoir, donc plus de juifs ne peut travailler au cinéma. Donc vous faites ce que vous voulez, soit vous mourrez de faim, soit vous...
Oui,
soit vous dégagez, donc ça va être aussi un grand exode des talents. C'est-à-dire que l'expressionnisme allemand, ou ce qui pouvait en rester, parce que c'était quand même un mouvement qui a quelques années, mais en tout cas tous ces talents-là vont partir, et il va rester en Allemagne cette odeur rance, etc. C'est très difficile de chercher des films de cette époque-là, parce que déjà je pense que c'est des corpus qui restent très 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 particuliers à étudier, donc il faut avoir beaucoup de codes, je pense que c'est quelque... on les trouve pas comme ça, quoi. On comprend qu'il n'y a pas une restauration pour un Blu-ray 4K du Triomphe de la Volonté, et encore c'est peut-être celui qui est le plus accessible dans tous ces films qui ont été produits,
visible,
des films de propagande, quoi.
Tu l'as dit, effectivement, le régime nazi va mettre va faire des amendements, et il y a notamment un amendement qui arrive le 16 février 34, qui est une loi vraiment national-socialiste, donc nazie, sur le cinéma, tu l'as dit, qui impose que tous les scénarios sont contrôlés par le censeur du Reich, le Reichsfilmdramaturge, pardonnez mon allemand, et le film terminé va être soumis à un comité de censure du ministère de la Propagande, et il va y avoir effectivement des films censurés qui sont effectivement tous les films qui sont adaptés de livres placés sur liste noire, ou effectivement, tu l'as dit, réalisés ou interprétés par les juifs, ou des acteurs ayant quitté l'Allemagne. Donc tous ces films vont être vraiment évincés de l'Allemagne.
Oui, il y a aussi des films qui sont lancés ouvertement pour promouvoir le nazisme de A à Z et en faire quelque chose de grand. Et on ne fera pas mieux que Leni Riefenstahl, malheureusement du mauvais côté, mais en tout cas, c'est...
Comment est-ce qu'on pourrait décrire le Triomphe de la Volonté pour les gens qui l'ont pas vu, c'est délicat.
C'est sidérant. Petite chose, je l'ai vu, parce que je l'avais jamais vu, il y a des extraits que j'avais dû voir en cours il y a quelques années, donc là je l'ai récupéré, et je le regardais, et à un moment j'ai commencé à le regarder sur un grand écran, j'ai dit non, il y a un truc un peu gênant quand même, je vais le regarder sur un petit écran, et je le regardais sur mon ordinateur, donc dans le salon, et mon épouse arrive, et là je ferme l'ordinateur, et je me suis dit, j'ai l'impression d'être un ado qui regarde un porno, et sa mère rentre dans le truc, parce qu'il y a quelque chose de très sulfureux en soi.
Oui, il y a quelque chose de gênant, regarde, c'est une manifestation nazie.
Il y a aussi quelque chose de très fascinant là-dedans, c'est la manière de mettre en scène qui représente tous les codes de la propagande et qui est incroyablement inventif.
C'est des images de, il faut imaginer, hein,
des foules,
c'est des images de foules immenses, donc de milliers et des milliers de nazis alignés sur des grandes esplanades, filmés de manière effectivement à les béatifier.
C'est fascinant.
Il y a une esthétique qui est élaborée à ce moment-là, en 1934.
Annuancée aussi par les grands chefs des partis qui passent dans toute la deuxième partie du film. On a des gens qui parlent à un pupitre.
Oui, donc c'est assez
redondant, assez redondant, et c'est pas forcément
très intéressant.
Et entrecoupé de quelques séquences qui sont des séquences qui sont vraiment impressionnantes. Vraiment impressionnante.
Ah, t'as des foules immenses, on va sur les visages des gens, on va sur les enfants, il y a vraiment une construction esthétique.
Bien sûr.
Le régime nazi, c'est aussi construit par une propagande visuelle et cinématographique.
Leni Riefenstahl était quelqu'un qui était fasciné qui était devenu la cinéaste officielle de Hitler. Et donc, elle le suivait dans ses déplacements, elle le filmait, et là, elle a atteint. C'est pas juste un film, faut bien garder en tête que c'est pas juste un film qui va pas avoir de suite. Derrière, c'est-à-dire que je pense que quand on regarde même Star Wars, le premier Star Wars, il y a des plans qui sont identiques.
Quand on filme l'Empire, quand on filme la remise de médaille à la fin.
Exactement, à la fin de l'épisode 4, c'est exactement les mêmes plans.
Exactement.
Sauf que là, c'est pour montrer quelque chose de plutôt bienveillant. L'autre, c'est très rance. Hein. C'est vraiment très gênant à regarder.
Et c'est vrai que le Triomphe de la Volonté est devenu une référence visuelle, esthétique pour énormément de films, dont, tu l'as dit, La Guerre des Étoiles, ce qui est assez saisissant. Alors, tu as parlé de Leni Riefenstahl, effectivement, qui... la documentariste, la réalisatrice attitrée du Reich pendant toute effectivement les années 30 et jusqu'en 45. C'est une actrice d'abord qui est devenue ensuite réalisatrice au début des années 30. Elle a monté comme ça les échelons avec l'approbation d'Hitler. Elle tournera donc Le Triomphe de la Volonté en 35, puis
Les Dieux du Stade
avec les JO qui se sont passés à Berlin en 36. Et enfin, elle tournera après d'autres films, notamment Tiefland qui est tourné en 40 et qui sortira bien des années plus tard. Mais en tout cas, voilà, elle va se concentrer sur des films qui vont mettre en exergue le peuple allemand, la politique allemande, le parti nazi, etc. Et c'est des films qui, comme Le Triomphe de la Volonté, sont assez dérangeants à regarder, parce qu'avec le recul, on se regarde un morceau de propagande. Moi, pareil, je regardais le film, j'étais là, moi je le regardais chez moi, t'entends la musique nazie, t'entends le discours, t'entends la voix d'Hitler qui gueule, ces discours de haine, et c'est... tu baisses le son parce que t'es un peu gêné, t'as pas envie que tes voisins t'écoutent. Et après, Les Dieux du Stade, c'est aussi saisissant parce que ça se tourne, t'as des images en Grèce,
le culte du corps.
Il faut l'avouer que c'est visuellement saisissant et assez magnifique, mais c'est dans le fond assez abject et assez immonde. C'est une expérience un peu bizarre.
Oui. J'ai vu des films gore, trash, etc. Ouais. C'est vraiment, vraiment malaisant.
Oui, parce que du coup, c'est l'impact de la réalité, véritablement. On parle de Leni Riefenstahl, là, donc on voit à quel point elle a une réalisatrice qui a imposé certaines références.
Je pense qu'elle a eu une influence incroyable. C'est dommage qu'elle ait été de mauvais côté de l'histoire. Vraiment, c'est dommage, parce qu'elle aurait pu faire des choses assez passionnantes. Mais en même temps, si elle n'avait pas eu de fascination pour un homme, est-ce qu'elle aurait fait quelque chose d'aussi grand, enfin, qu'elle aurait eu cette inventivité dans la manière de sublimer le corps, la personne, la foule
Parce que c'est vrai qu'effectivement, après la guerre, on l'a pas dit, c'est une personne qui va donc effectivement être jugée, elle va bref éviter la prison. Puis elle fera une carrière de documentariste, notamment en Afrique, où elle fera des documentaires et des photos sur le continent africain, et elle va d'ailleurs... connaître, on va dire, une bonne carrière, puisqu'elle mourra en 2002. Alors j'inviterai les auditeurs à regarder un documentaire récent. Moi, j'avais cette image, effectivement, de Leni Riefenstahl qui était, comme tu l'as dit, du mauvais côté de l'histoire, mais qui était une personne talentueuse. Cet avis-là, cette opinion-là a changé radicalement, puisque j'ai regardé le documentaire qui s'appelle « Leni Riefenstahl, la vie d'un mythe » de Michael Kloft, qui est sorti en 2020 sur Arte.
Sur Arte, oui.
Effectivement. Et ce documentaire... dresse un autre portrait tout à fait horrible de Riefenstahl, et il y a notamment plein de collaborateurs de cette femme qui témoignent, et il y a un collaborateur qui parle d'elle et qui dit: Riefenstahl est une femme égoïste, vaniteuse, dure, sans esprit ni vraie culture, mais rusée et douée d'une grande force de séduction. Donc en fait, c'est une personne qui, et on le voit dans tout le documentaire, qui est dépeinte comme quelqu'un qui va user de sa séduction, son charme, son pouvoir de persuasion pour grincer les échelons au détriment de vrais talents, de vrais artistes, et notamment Willy Zilke, qui est un assistant réalisateur, qui va être, par sa faute, interné et stérilisé de force dans un camp de concentration allemand, supposément sur ses ordres à elle. elle a visiblement court-circuité plein de talents et utilisé les autres pour se faire une carrière, quoi, véritablement. En tout cas, c'est ce que ce documentaire atteste, et moi, ça a changé radicalement ma vision de cette réalisatrice, qui est assez particulière. Sylvain, on va revenir sur le centre de notre thématique. Mais tu l'as dit, effectivement, dès que le parti nazi arrive en Allemagne, eh ben, toute une frange de la population, toute une partie des artistes, des auteurs, des acteurs, des réalisateurs, oui, des scénaristes, ben, vont quitter l'Allemagne, oui, et vont s'exiler pour aller réaliser des films, scénariser des films en sécurité dans d'autres pays, oui, la France, l'Italie, les États-Unis. L'arrivée des nazis dans le cinéma allemand va provoquer l'exil de plus de 1000 techniciens. Quand même, on peut citer parmi eux Max Ophuls, on peut citer Curtis Bernard, on peut citer Fritz Lang, Billy Wilder, Otto Preminger, bien sûr. Qu'est-ce que partagent ces talents exilés? Est-ce qu'il existe un cinéma allemand de l'exil, par exemple?
Je pense que c'est plus compliqué que ça, parce que quand on regarde le cinéma de Fritz Lang et celui de Max Ophuls, c'est pas la même approche esthétique ou thématique. J'ai essayé de voir s'il n'y avait pas des codes en voyant ou en revoyant des films de cette époque, s'il n'y avait pas des idées de fuite ou des choses, des thèmes qui auraient pu filtrer. Pas toujours. C'est très compliqué.
C'est plus complexe que ça. Oui, c'est plus compliqué de rentrer effectivement tout le monde dans une boîte.
Et puis il faut savoir que quand ces talents arrivent en France, on est en France, en Europe en général, hein, mais surtout en France, on est en crise en France. Donc voir arriver des étrangers, c'est malheureusement jamais une bonne chose à cette époque-là, parce que il y a aussi un antisémitisme qui est fort. Il n'est pas qu'en Allemagne, il n'est pas qu'aux États-Unis, il est partout. L'antisémitisme, c'est partout. Donc, quand on voit arriver des personnes juives, on se dit « Ah ben, l'Allemagne, elle a raison de faire ça, il faut qu'on fasse la même chose. » Et puis, du coup, les gens qui peuvent travailler, bah, ils font des petites choses.
Oui, Fritz Lang
qui a fait Métropolis, qui a fait Les Trois...
Il fera Lilium en France.
Il fera Lilium, qui est un petit film, très étrange.
Alors qu'aux États-Unis, il fera des films un peu plus imposants, intéressants.
Ça sera même des séries B aux États-Unis, finalement. C'est pas des films. C'est Métropolis, quand on regarde, c'est assez impressionnant. C'est un peu comme on passait de, je sais pas, de Spielberg qui tournerait un film français avec trois personnes dans un appartement, quoi. C'est passé de ça à ça quand même. On a le statut, on est le plus grand, et puis on arrive, on est à peine toléré.
D'ailleurs, Fritz Lang va tourner un film qui s'appelle Fury, qui du coup parle de ça, qui parle d'un homme qui est accusé à tort et qui, cet homme peut être une métaphore de lui-même véritablement.
Fritz Lang qui avait été approché, c'est lui qui avait été approché pour être le réalisateur officiel du Führer, et il raconte avoir été approché par Goebbels. Goebbels dit: je voudrais que vous deveniez notre réalisateur officiel. Il avait dit: mais vous savez que je suis juif. Et il a fait: oui, laissez-nous décider qui est juif et qui ne l'est pas. Ce qui est glaçant. Il y a aussi une autre phrase qui est glaçante, c'est Billy Wilder. Alors Billy Wilder était scénariste, il va arriver en France en 33, il va faire un film qui va sortir en 34, et après il partira aux États-Unis, un film qui s'appelle Mauvaise Graine, qu'il a co-réalisé, qui n'est pas inintéressant du tout, et lui il va revenir sur le sol européen en 1944, au moment de la libération des 44-45, au moment de la libération des camps, et il va filmer l'ouverture des camps, et une partie de sa famille est morte dans les camps. Donc c'est quand même quelqu'un qui était qui s'est retrouvé confronté à l'horreur. C'est un des premiers qui a filmé cette horreur,
ce qui est fou quand on sait que Billy Wilder a réalisé parmi les comédies les plus hilarante des États-Unis, quoi.
Eh ben oui, mais il a eu une phrase là-dessus en parlant des juifs en Allemagne dans cette période-là, en 1933-34. Il disait: il y a eu les optimistes et il y a les pessimistes. Les premiers ont fini gazés, les autres dans une piscine à Beverly Hills, parce qu'ils sont tous partis faire du cinéma aux États-Unis où ils ont trouvé la fortune. Et ceux qui disaient: non mais c'est bon, t'inquiète pas, arrête, tu dramatises, c'est horrible.
Elle est terrible, cette phrase, parce qu'elle a ce côté terrible et glaçant et horrible, et en même temps il y a cette finesse d'écriture. C'est cynique, j'imagine, c'est une sorte de cynisme. Mais c'est vrai qu'on l'a vu là, on se retrouve en 34, et tu l'as dit, cet antisémitisme touche tout le monde, mais c'est assez fou de voir le parallèle entre la même année aux États-Unis et en Allemagne, passe des lois de censure du cinéma, qui contraignent le cinéma, et qui sont dirigés par des gens antisémites.
Et en France,
Joseph Brin les nazis.
En France aussi, ça va commencer à monter de plus en plus. Et il y aura un combat entre le Front Populaire et puis les partis d'extrême droite. J'avais lu un chiffre, c'est 88 sociétés qui vont fermer ou qui vont déposer le bilan en 1934 ou entre 34 et 35. Donc en fait, c'est le cinéma français va très 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 mal.
Il y a un parallèle glaçant à faire avec actuellement la pandémie et effectivement cette période compliquée qui met quand même beaucoup de sociétés et de salles et d'exploitants et distributeurs dans des situations
parallèlement montées d'extrême, donc c'est
mine de rien, effectivement, on se retrouve presque 100 ans après, 90 ans après, dans des considérations qui sont terriblement similaires. Oui. Et comme on l'a dit, comme on l'a vu, comme aux États-Unis, on retrouve un système de censure et de contrition du cinéma la même année, ce qui est assez phénoménal. Mmh. Voilà qui conclut parfaitement le deuxième thème de notre émission sur 1934. Vous êtes toujours en train d'écouter Année Lumière et on s'en va sans plus tarder vers le troisième et dernier thème de notre émission. Cette chanson, elle est extraite du film La Talente de Jean Vigo. C'est le Chant des Mariniers chanté par Jean Dasté et Michel Simon. Donc dans ce film de Jean Vigo, qui raconte l'histoire de Juliette qui, pour quitter son petit village, va épouser Jean, un marinier, et qui les suit donc sur sa péniche La Talente, sur laquelle se trouve aussi le vieux Jules et un jeune Mousse. Mais la mariée s'adapte mal à la vie à bord et quand arrive l'escale à Paris, elle va reprendre sa liberté. La Talente est le premier et unique long-métrage de Jean Vigo. J'insiste bien sur long-métrage, puisque le cinéaste est réalisateur également de Zéro de conduite, qui est un moyen-métrage sorti en 1933, d'un film qui s'appelle À propos de Nice en 1930 et de La natation par Jean Tharis qui sortira en 1931. Alors pourquoi on parle de La Talente, pourquoi on parle de Jean Vigo? Simplement, déjà effectivement c'est un film qui est important et tout simplement aussi parce que Jean Vigo est un cinéaste qui est et important et aussi est une référence et qui est un cinéaste qui est mort très très jeune puisqu'il va mourir le 5 octobre 1934 à 29 ans d'une septicémie quelques semaines seulement après la sortie du film La Talente.
Pas exactement. Ah. C'est pas La Talente qui sort, c'est Le Chaland qui passe.
Alors,
c'est-à-dire que le film a été remonté.
Tout à fait, effectivement, parce que Le Chaland qui passe était le titre, en tout cas, du film tel quel est sorti à l'époque. Et La Talente est un film qui a été morcelé, charcuté, remonté. Et donc, en fait, La Talente qu'on peut voir aujourd'hui en 2022 n'est pas exactement le même film que les spectateurs ont vu en 1934.
La plus proche qu'aurait imaginé Jean Vigo. Ouais. Mais Jean Vigo n'a jamais vu
La Talente que nous on voit aujourd'hui.
Ah non.
Donc
il était malade au moment du tournage déjà et il avait écrit des notes, il avait donné des notes au monteur qui a fait autre chose parce que
c'est un cinéma de quoi le cinéma de Jean Vigo pour ceux qui l'ont jamais vu un film de Jean Vigo c'est ça ressemble à quoi
c'est très compliqué, c'est un cinéma assez unique qui a pas fait école tout de suite, ce qui fait qu'il est unique, c'est-à-dire qu'en fait il faudrait pratiquement pas en parler comme un film de 1934 d'une certaine manière. Comme l'influence est tardive, il n'est pas rentré dans un moule où il a pu influencer un petit peu des films qui se sont un petit peu inspirés, etc. Il a inspiré beaucoup plus tard.
C'est une anomalie, je dirais.
C'est une anomalie, ouais. C'est une anomalie. Il y a quelque chose de très romantique dans ce cinéma-là. Déjà en son histoire, cet homme qui va mourir à 29 ans après avoir fait, comme tu disais, donc un
long métrage
sur Nice,
quelques,
qui s'appelle À propos de Nice, qui montre la ville de Nice, donc
en
faisant quelque chose d'un peu anti-bourgeois, un peu anarchiste, en montrant la débauche de la ville, etc. Mais qui reste quelque chose d'un peu expérimental et de quelque chose pour ciné-club, on dirait, pour quelques aficionados. Et puis après, il fait cette publicité qui est La natation par Jean Tharis, qui effectivement a quelques effets très intéressants où il va filmer sous l'eau et il va faire des ralentis. C'est un amoureux des effets.
C'est vrai qu'il est précurseur sur quand même pas mal de choses. Oui. En tout cas, il tente des choses et comme tu l'as dit, il tente des choses stylistiques, esthétiques.
Oui.
Pour aller atteindre, moi, s'il faudrait le définir, c'est une sorte de. C'est un cinéma qui est lyrique, qui est une sorte de poésie et c'est un mélange entre lyrisme, poésie, aussi ce fond social qui est toujours présent.
Très jeune, très vivant.
Très vivant.
Très vivant. Et son film suivant, Zéro de conduite. Pareil, alors c'est très drôle parce que c'est un film qui montre des élèves d'une école qui doit avoir quoi, 10-12 ans ou 14 ans, qui mettent le bazar dans leur école. Donc forcément, c'est scandaleux et le film va être interdit de diffusion. Donc Gaumont, qui avait payé le film, était assez embêté, mais il confie quand même un deuxième film. Ouais. Mais ce film-là ne va pas sortir, Zéro de conduite ne va pas sortir. Il sortira que bien plus tard. Et très rapidement, quand le film sera redécouvert, à ce moment-là, il sera. Aujourd'hui, il est au programme des écoles.
Écoles et en général, il y a des doubles programmes à Talente.
C'est-à-dire que le film qu'on va conseiller aux enfants aujourd'hui, c'est un film qui était totalement interdit à tous les publics, parce qu'il dévergondait. Il ne faut absolument pas que même les jeunes, même les adultes, le voient. Mmh. Donc, c'était un film qui a été mis sur une étagère. Et quand arrive La Talente, c'est un scénario pas très intéressant, convenons-en. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont Vigo va en faire quelque chose de pur et de pratiquement mystique, en fait. On comprend pas pourquoi ça marche.
C'est très éthéré. On est presque dans un rêve, effectivement.
Oui,
c'est vraiment ça. Il y a ces scènes un peu à part, un peu hors sol.
Et puis, on n'arrête pas de se demander, mais qu'aurait fait Viggo s'il avait eu 10 ans, 5 ans, ouais. 3 ans de plus. Là, on a une, je crois que sa carrière, ça fait 200 minutes.
Ouais, c'est 200 minutes, mort à 29 ans,
oui.
Et donne des films qui sont aujourd'hui éternels. Et comme tu le dis, y a, dans La Talente, il y a ce côté mini-monde, microcosme de la péniche qui flotte, qui dans la brume, qui arrive à Paris. C'est, on est carrément dans un film, voilà, c'est mystique, hein, véritablement.
Ce qui l'intéresse, c'est pas le scénario, c'est vraiment montrer cette jeune fille qui est perdue, cet homme qui est seul et qui va imaginer des choses, ses baisers filmés avec avec des cadres très particuliers qui sont extrêmement sensuels, mais c'est un film qui est pas évident.
C'est un film qui est pas évident à regarder. Hein,
c'est parti de ces films que j'ai vu comme beaucoup de films parce qu'ils font partie de listes de grands films du cinéma. Donc c'est des films qu'il faut voir. Et j'en suis persuadé. Ce qu'on n'explique pas forcément dans ces listes, c'est que ces listes ont un intérêt aussi, c'est qu'il faut les poser. On n'est pas obligé d'aimer ces films-là.
Oui.
On peut avoir un rejet en disant,
surtout pas.
C'est nul, etc. Il faut attendre, il faut laisser reposer, il faut laisser infuser et peut-être y revenir après et comprendre qu'en fait la jeunesse de cette chose. On sent que c'est quelqu'un qui avait filmé un film et comme si c'était le dernier, et ça l'était, il le savait. Et donc il y a cette force dedans. Bien sûr. Très très belle.
Et cette force est tellement belle qu'elle va traverser effectivement les années et les générations, puisque Jean Vigo donc meurt en 34, et du coup Jean Vigo va devenir en 51 le nom d'un prix, le prix Jean Vigo, qui récompense les jeunes cinéastes, qui est effectivement toujours en vigueur aujourd'hui. Pourquoi, à ton avis, Jean Vigo est une telle référence encore aujourd'hui?
Parce qu'il a pas fait école pendant des années. Quand on découvre le cinéma de Jean Vigo, ce cinéma-là,
parce qu'il est atypique.
C'est après-guerre, quoi. Ouais, il ressemble à rien d'autre. Et comme il est découvert tardivement, il n'a pas pu faire école et il n'a pas pu être repris à l'époque. Donc c'est quelque chose de... c'est un ovni, quoi, ce qu'on appelle un ovni. Il n'a aucun pareil.
Mine de rien, tu veux dire qu'il a survécu à travers le temps, il a été passé à travers le temps, et notamment par les cinéastes de la Nouvelle Vague. Hein. François Truffaut le défendra énormément, effectivement.
En fait, c'est aussi un des films mythiques des ciné-clubs. Et c'est un film qui est beaucoup repassé après-guerre dans ces clubs de cinéphiles qui commençaient...
C'est un film expérience, du coup, les gens se le passaient.
Et il y avait quelque chose d'un peu magique et d'un peu invisible là-dedans. Donc quand on découvre ça... vous avez découvert la carrière en moins de 4 heures, vous avez découvert toute la carrière d'un cinéaste. Il a fait ça. C'est magique.
Ça pose la question de savoir si effectivement il avait vécu 50 ans de plus, est-ce qu'il aurait la même renommée?
Peut-être qu'il aurait remonté son film de manière un peu différente et il aurait été oublié.
En général, effectivement, et là on voit effectivement, on parle de l'influence et de qui est resté dans Jean Vigo. Jean Vigo est un cinéaste qui est souvent mis dans un mouvement, peut-être à tort, sans doute
à tort,
qui est un mouvement qui s'appelle le réalisme poétique, qui est un grand mouvement français des années 30, début 40, dont on va parler là. Mais effectivement, tu le dis, Jean Vigo, c'était quelqu'un à part et que plusieurs écrits, plusieurs livres le placent parce qu'il arrive à la même époque. Dans ce mouvement du réalisme poétique. Alors, le réalisme poétique, pour ceux qui nous écoutent, c'est un courant cinématographique qui commence autour de 1930. Des cinéastes comme Marcel Carnet, Jean Renoir, L'Herbier, des films comme La Belle Équipe, L'Hôtel du Nord, La Bête Humaine, Le Jour se lève, La Grande Illusion. Donc, plein de films comme ça qui vont partager
une sensibilité commune,
des thématiques aussi très sociales, une mythologie sociale avec des personnages assez récurrents comme des marginaux, des ouvriers. Avec des thématiques comme la lutte ouvrière, comme la fatalité aussi, l'entreprise humaine, plein de choses comme ça, et des acteurs assez emblématiques comme Jean Gabin, Arletty,
c'est l'acteur.
Voilà,
Jean Gabin,
avec la petite casquette et cet accent un peu de débrouillard, un peu de parisien comme ça. C'est le Jean Gabin du réalisme poétique, mais dans lequel c'est un mouvement dans lequel tu ne mettrais pas du tout Jean Vigo, effectivement.
Non, mais alors c'est compliqué comme mouvement parce qu'on a pu y mettre des choses. C'est un cinéma, comme tu dis, avec des personnages forts, des personnages. Il y a quelque chose de populaire. C'est des personnages populaires. C'est des ouvriers, c'est des déserteurs, c'est des personnages un peu sombres d'une certaine manière. Et il y a un romantisme là-dedans. C'est le cinéma de la fatalité, quoi. C'est le cinéma de la fatalité parce que il y a des destins tragiques. Mais quand on a dit ça, on a tout dit et rien dit, parce qu'il y a plein de films qu'on va rajouter qui pourraient rentrer dedans, mais qui ne vont pas rentrer. C'est-à-dire que j'ai lu dans beaucoup de livres que c'était un cinéma qui était profondément urbain. Et je dis, ben non, il y a Angèle, par exemple, de Pagnol, qui sort en 34, qui fait partie de ce mouvement-là, dans toutes les anthologies. Ah oui, d'accord, ça rentre pas. Okay. Ben c'est peut-être le seul. Ben non, parce qu'il y a Tony de Jean Renoir, qui est un film aussi pareil, qui est produit par, par ou coproduit par Marcel Pagnol. Et puis quand on dit réalisme poétique, on peut s'attendre à un réalisme, donc quelque chose de plus véritable dans la forme. En fait, la forme ne l'est absolument pas, puisque ça va être Marcel Carné qui va faire des décors immenses, comme Le Jour se lève.
Un peu distordu, un peu discornu, qui va évoquer
plus,
le
plus
rêve.
Plus poétique que réaliste. Ouais. Bon, mais le côté social et ce côté-là est réaliste, mais la forme ne l'est absolument pas.
Oui, en fait, t'as le fond qui est effectivement réaliste, et t'as la forme qui est féerique, merveilleuse, véritablement. D'ailleurs, il y a une autre appellation du réalisme poétique qui est le fantastique.
Réalisme fantastique.
Et moi, j'ai entendu fantastique social.
Ou fantastique social.
Effectivement, qui du coup aussi donne une autre.
C'est peut-être plus juste. On a souvent dit que le dialogue avait été très important dans ce cinéma-là.
Oui,
le Prévert, Janson,
c'est un travail. Il y a cette dimension poétique véritablement, et dans les décors et dans les lumières qui sont un peu irréelles, et effectivement aussi dans les dialogues où il y a des dialogues assez fous.
Tout à fait, et je pense que la figure centrale de ça, c'est comme tu l'as dit, c'est Jean Gabin, même s'il y avait d'autres acteurs c'est Jean Gabin qui va tourner avec Duvivier, qui va tourner avec Prévert, avec Carnet, les dialogues de Prévert et Renoir, et c'est un peu le centre de tout ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un cinéma de travailleurs et de, on pourrait presque dire ça aujourd'hui avec une autre cinéma d'entrepreneurs, d'une certaine manière. C'est un peu paradoxal, mais c'était des personnes qui souvent voulaient...
Des brouillardes.
Oui, la belle équipe, c'est des personnes qui gagnent au loto, donc qui vont monter un petit bar avec des copains.
Une guinguette sur le bord de
leur guinguette. Leur entreprise, ils ne veulent plus de patron, en fait, ils veulent être leur propre
patron. C'est des films des années 30 français, donc des films de gauche, j'ai envie de dire,
Il y a aussi un film de Robert Siodmak, qui est pareil, qui est quelqu'un qui est parti d'Allemagne et qui est arrivé en France, et qui a fait un film qui s'appelle La crise est finie, qui est méconnu, avec Albert Préjean et Daniel Darieux. Mais c'est l'histoire d'une troupe de théâtre. Et le problème, c'est que le directeur du théâtre ne passe tous les caprices de la comédienne principale. Et donc, tous les techniciens, tous les acteurs font « Ok, on reste, on s'en va, on va à Paris, on va faire notre vie sans vous. On vous abandonne, on fait notre troupe. Enfin, on va entre nous. » Ils arrivent à Paris, ils squattent un vieux théâtre et ils se disent « Tiens, on va faire une pièce de théâtre et on va vivre de ça. » Nous-mêmes, et on va l'appeler La crise est finie. Parce que comme les gens parlent toujours de crise, nous on va dire La crise est finie, on va faire un truc festif autour de ça. Et donc c'est vraiment quelque chose d'assez étonnant, qui appartient aussi au réalisme poétique.
Ouais.
Je pense que c'est un cinéma qui capte quelque chose dans l'air de son époque, la crise, l'envie de s'en sortir, l'envie de refuser l'ordre et de recréer un monde. Même si c'est de manière dramatique, et puis quelque chose d'un peu dramatique, parce que ça capte l'ambiance anxiogène de l'époque. Mais je pense que le Front populaire est quelque chose aussi qui gravite autour de ça, un espoir, et puis la peur du reste et de ce monde un peu sombre. Parce que les dialogues de Prévert sont très 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 noirs quand on y réfléchit. Ils sont très joyeux, très beaux, mais aussi ils peuvent être très très sombres.
De recréer un monde, effectivement. Oui. Et aujourd'hui, en 2022, il y a des cinéastes qui te disent, qui te rappellent, qui t'évoquent certains aspects du réalisme poétique.
Ben, je dirais que...
Moi, j'ai Albert Dupontel qui me vient en tête, là.
Ouais,
parce que je me dis que Adieu les cons, avec cette cohabitation dans son cinéma d'une réalité effectivement très normée, avec ces lotissements à perte de vue, ce cinéma, cette administration un peu kafkaïenne et un peu abrutissante, et où lui, il va casser tout, mettre de la poésie, il va jouer avec le building, etc. etc. Son cinéma évoque certainement cette possibilité de recréer un monde et une certaine poésie dans un monde qui est très formaté.
C'est possible. Mais je mettrais aussi... Merci de citer un film Gaumont, comme ça. On a déjà parlé de La Talente. Je mettrais les films de Perret Jadko, peut-être.
Ah oui, effectivement.
Qui ont cet univers et qui, lui, va filmer aussi, est allé filmer des manifestations, est allé... Je ne sais pas si
donc
son film...
Donc Perret Jadko, son dernier film, c'est La pièce rapportée.
La pièce rapportée.
Avec effectivement Anaïs de Moustier et Philippe Catherine.
Et qui a fait La fille du 14 juillet, notamment, et qui est un film univers en soi. Mais il y a vraiment quelque chose de social là-dedans.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on sent à certains moments des décalages avec la réalité, avec des codes que nous on a. Il y a d'autres films aussi qui prennent le pouls de la réalité. C'est vrai que souvent on a la partie poésie et la partie réaliste. Ouais. Et arriver à mélanger les deux, ça peut être un peu compliqué.
Et peut-être effectivement que, ça, comme tu le disais, ça appartient à son époque, ça appartient aux années 30, qui a permis effectivement cette cohabitation, cette fusion des extrêmes pour créer ce mouvement, ce genre un peu à part, le réalisme poétique. Et puis pour créer des talents comme Jean Vigo, comme on l'a parlé, comme on l'a évoqué, comme on en a parlé dans ce thème numéro 3. Est-ce que tu voulais, toi, rajouter quelque chose dans ce thème?
Il y a un cas intéressant, c'est Duvivier. Alors, Duvivier, on commence à le redécouvrir.
Julien Duvivier, donc, réalisateur de La Belle Équipe.
La Belle Équipe, voilà. Et c'est un cinéaste incroyable. Mais Duvivier jusqu'en 1940, il n'y a rien à jeter, quoi. Il n'y a rien à jeter, c'est incroyable. Paquebot Tenacity, c'est un film qui est disponible en DVD dans une qualité dégueulasse. Mais c'est vraiment un des trois pires DVD. J'ai un mur de DVD, c'est le pire. C'est rayé, c'est moche. On n'est pas sûr d'avoir le bon format, on n'est pas sûr d'avoir une copie complète. Il y a des carrés, on ne sait pas. Il y a un problème de compression sur le film. Mais on découvre vraiment, pareil, toujours Albert Préjean, donc homme du peuple, qui arrive et qui va décider de quitter son travail de figurant sur un tournage pour partir avec son ami au Havre, pour partir faire fortune et aller travailler et monter sa propre entreprise au Canada. Et il va arriver au Havre, et là, il va croiser les gens du Havre, il va parler avec eux, et ça va être des petites guinguettes, etc. Et c'est filmé de manière admirable, c'est une énergie incroyable. Et on retrouve ce côté du réalisme poétique, quoi. On est vraiment ancré dans ces gens qui travaillent et on y croit.
En tout cas, voilà, bah, j'espère que la passion de Sylvain vous aura convaincu. Et merci encore d'avoir effectivement partagé tous ces films, notamment celui de Julien Duvivier, qui a l'air effectivement passionnant, que je n'ai pas vu et que j'ai hâte de découvrir. Voilà, en tout cas, qui conclut parfaitement ce troisième thème de notre émission sur 1934. Merci Sylvain. Mais on va pas vous laisser là, hein. On vous quitte pas avant, en tout cas, de vous avoir partagé nos petites recommandations de cette année-là. Voilà, comme d'habitude, comme à chaque année Lumière, on vous quitte en partageant nos petits coups de cœur, et en tout cas nos coups de cœur de cette année 1934. Toi Sylvain, tu voulais nous partager un ou deux films que tu as envie de recommander aux auditeurs.
J'ai déjà parlé de Paquebot Tenacity et de La Crise est finie. Je vais parler d'un autre film français, pardon, mais j'ai ce plaisir d'être toute la journée dans le cinéma français, ou en tout cas européen, mais surtout français avec mon travail, donc je suis à fond dedans. Et puis on découvre un film qui fait qu'on a peut-être un ou deux autres films du même réalisateur, donc on va les regarder et on se dit qu'il y a peut-être des cohérences, donc on a envie de tout voir. Et parmi les réalisateurs que j'ai découvert un peu tardivement, un cinéaste qui s'appelle Raymond Bernard et qui a réalisé en 1934 deux films, Tartarin de Tarascon, qui est plus mineur, et qui a aussi réalisé surtout Les Misérables avec Harry Bore, qui est incroyable.
Donc adaptation du roman effectivement, de Victor Hugo.
Là, il va y avoir trois films. En fait, c'est un film en trois parties qui vont sortir à une semaine d'écart à chaque fois. Un film de 2 heures, un film d'une heure et demie, un film d'une heure vingt à peu près. Harry Bore, en un plan, il devient Jean Valjean. C'est quand même la question quand on a un monument comme Les Misérables. Si c'est un acteur connu, oui, mais comment il va se transformer ? En un plan, on sent cet homme qui porte la statue sur ses épaules, qui va trembler. On sait que c'est lui. Il fallait au moins ces 5 heures pour adapter le roman. Et il y a cette troisième partie qui est la partie de la révolte, qui est d'une incroyable énergie et puissance. Et on a même si c'est un film de 1934, on frissonne et on est presque en transe quand on voit c'est vraiment ces barricades se créer, le ton monter entre les gens qui veulent attaquer en face et les soldats qui veulent rétablir l'ordre de cette mini-révolte et ces gens du peuple qui font tout pour essayer de renverser le pouvoir à un moment ou même pas. Je pense qu'ils veulent juste tout casser. C'est incroyable. Et cette partie qui pourrait durer 10-20 minutes dans un film, en fait, elles font pratiquement une heure dans le troisième film, et c'est vraiment un climax.
C'est une expérience totale, véritablement, telle que tu racontes.
Et c'est nos camarades. Ah oui, vraiment. Et c'est nos camarades de Pathé qui ont restauré le film il y a quelques années. Et je l'avais découvert il y a longtemps. Je l'ai revu pour l'occasion. Je l'ai racheté pour l'occasion et je l'ai revu pour l'occasion. Mais je t'explique, je l'avais vu quand j'étais beaucoup plus jeune. Je crois que je devais avoir 20 ans. Donc c'était il y a 20 ans. Et j'avais peur de le revoir. Parce que j'avais été très impressionné à l'époque. Mais à l'époque, en les enregistrant sur Cinéma de Minuit, tardivement, avec une image un peu gradueuse, etc. Et je me suis toujours dit, je me suis tellement emporté sur ce film, j'avais peur d'être déçu. T'imagines, t'as aimé un film tellement fort, il t'a tellement touché. Peut-être que c'est mon fantasme qui est plus beau, mais est-ce que je dois briser mon fantasme? Ou alors, je dois m'y remettre? En fait, c'était encore plus impressionnant quand je l'ai revu.
En belle qualité.
Oui. Ah oui, en plus, c'est magnifique.
Donc, les Misérables de Raymond Bernard. Bah après, moi j'ai une autre recommandation, moi, de mon côté. Alors, je vais être moins original que Sylvain, qui nous a partagé de nombreux films, et merci à lui. Mais c'est vrai que quand on a construit l'émission, c'était compliqué de passer à côté de ce film-là, tellement moi je l'ai aimé en tant que spectateur. C'est New York Miami de Frank Capra avec Claudette Colbert et Clark Gable. Alors oui, effectivement, c'est l'un des films emblématiques de 34. Il n'y a pas beaucoup besoin de le présenter puisqu'il est assez connu, mais je vais quand même le rappeler puisque New York Miami raconte l'histoire de Ellie, une jeune femme qui fuit son père millionnaire et qui décide de rallier New York toute seule. Et durant le voyage, elle va rencontrer Pete, qui est un journaliste qui comprend très très vite qui elle est, puisque son père a promis une récompense dans les journaux à qui la lui ramènerait. Et peu à peu, alors que l'argent commence à faire défaut à ce duo de voyage et qu'ils continuent de fuir les deux en autostop, ils vont, mine de rien, le journaliste et la jeune Ellie vont apprendre à se connaître et tisser un lien et voilà, vivre une aventure à deux dans ce voyage. C'est un film qui, on est quand même 90 ans après, qui fonctionne toujours aussi bien, qui a une efficacité toujours assez phénoménale, et surtout aussi grâce à un texte assez drôle et délicieux de quelqu'un qui s'appelle Robert Riskin, qui sera aussi à la plume de l'extravagant Monsieur Deeds quelques années plus tard avec Frank Capra. Et le film fonctionne aussi et surtout grâce à l'alchimie assez folle entre Clark Gable et Claudette Colbert, et des scènes assez géniales. Tu parlais de scènes qui sont marquées comme ça, de phrases qui sont marquées dans l'imaginaire collectif et on sait pas trop d'où elles viennent, mais c'est vrai que par exemple la scène de la jeune femme qui remonte son bas pour arrêter les voitures en autostop, c'est des scènes qu'on a revues plein de fois dans les scènes reprises et reprises. Ben, elle vient de là. Claudette Colbert, ils ont du mal à faire de l'autostop parce que Clark Gable, c'est un homme. Il suffit que Claudette Colbert aille sur le bord de la route, remonte son bas, refasse sa chaussure pour qu'il y ait 15 voitures qui s'arrêtent et qu'ils aient enfin quelqu'un qui les emmène. Donc ça, c'est une scène assez emblématique qui vient de ce film-là. Mais il y a aussi la scène de la première nuit dans la même chambre avec le rideau. Plein de scènes comme ça qui fonctionnent encore très très bien 90 ans après et qui sont assez formidables. Et c'est simplement un film aussi emblématique des années 30, on en a parlé. Oui. Plein d'espoir, assez feel good, parce que c'est une comédie romantique véritablement. D'ailleurs, c'est une comédie romantique. Moi, je trouve que c'est toujours, 90 ans après, l'une des meilleures comédies romantiques. Et c'est très juste ce que tu disais, effectivement, il ne faut pas avoir peur de ces grands films un peu monumentaux qu'on étiquette classiques. Et dans l'autre sens, on l'a dit juste avant, il ne faut pas avoir peur non plus de dire qu'on n'aime pas les classiques, que ce classique-là nous ennuie, que ce classique-là nous plaît pas, et c'est pas très grave. Les classiques ne sont pas là pour être aimés forcément systématiquement, ils sont là pour être découverts et redécouverts, et on se rend compte qu'ils fonctionnent toujours aussi bien.
Il faut pas avoir peur de ne pas aimer. Le pire, c'est de pas voir les films, mais après, si on les aime pas, c'est vraiment c'est pas grave. Mais il faut les voir.
Voyez les films.
Voilà. Voyez les films.
Pour conclure, ce New York Miami, il y a un fun fact aussi intéressant et qui vous montre aussi l'importance de ce film-là. C'est l'un des rares films à avoir eu les 5 Oscars principaux. Oui. C'est-à-dire meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleure réalisation et meilleur scénario. Donc 5 Oscars majeurs pour un même film. New York Miami a réalisé cet exploit-là. Et donc c'est
Je pense que c'est le début de la touche Capra. Aux États-Unis, ils disent capraesque.
Oui, capraesque.
Qui est un adjectif. Comme Hitchcockien en France. Ouais. Il y a capraesque.
Bon, en tout cas, comme tu disais, effectivement, Sylvain, voyez les films. Voyez les films. Qu'ils soient des classiques ou les autres. Et puis faites-vous votre opinion. Voilà, voyez les films. C'est toujours un bon conseil. Voilà qui conclut cet épisode d'Année Lumière consacré à l'année 1934. Merci Sylvain Perret d'avoir partagé ton cinéma avec nous.
Toujours un plaisir, merci à toi, tous tes conseils et tous tes recos, et
c'était assez fameux, merci beaucoup. Merci bien sûr au magazine Cinématiseur et à Tsugi Radio qui nous accueille dans son studio de la Villette à Paris. Enfin, un immense merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute, votre soutien et votre fidélité. N'oubliez pas de partager cet épisode, de suivre le compte Twitter d'Année Lumière et de soutenir l'émission, même modestement, via le site ou l'application Utip, U-T-I-P. Pour les gens qui ont envie de jouer la prolongation, je serai le 9 juillet au Forum des Images à Paris, dans le festival La Colo Panique Cinéma, le 9 juillet à 21h30, pour présenter avec Karim Debbache The Social Network de David Fincher. Donc voilà, si vous êtes à Paris, vous pourrez voir un mini Année Lumière et The Social Network de David Fincher en direct. En attendant, moi je vous donne rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle émission, et je vous souhaite un bon été. Salut à tous.